Bonjour et bienvenue sur News FM dans cette émission On sait quoi ton métier. Notre invité du jour vient nous parler de son parcours professionnel et de son quotidien au travail. Donc dans l'émission C'est quoi ton métier, nous recevons aujourd'hui Maxime Lafranceschina qui est primeur.
Oui, bonjour exactement. Maxime. Bonjour à tous.
Voilà, alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours professionnel ?
Alors mon parcours professionnel, il est très simple, il ressemble à beaucoup de jeunes d'aujourd'hui qui ne sont pas forcément très assidus et qui n'aiment pas forcément les études. Je suis allé jusqu'en quatrième, puis ensuite je suis parti dans une école spécialisée qu'on appelait les écoles d'apprentissage de métier. Là, en l'occurrence, j'apprenais le métier de la comptabilité. J'ai fait ma quatrième, ma troisième comme ça. Et puis après, je suis parti pour faire un bac professionnel comptabilité. Et de fil en aiguille, je suis parti ensuite sur de l'alternance dans le métier de fruits et légumes, où j'y ai passé mon BTS.
D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier ?
Alors, tout simplement parce que mes parents y étaient. Et c'est le métier de trois générations. Mon grand-père aussi faisait ce métier-là. Mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, car beaucoup viennent dans notre métier de primeur par le biais de petits boulots d'été, par le fait qu'en bas de chez eux, ils ont un marché de plein vent où il y a des primeurs qui déballent, ou un petit magasin, et qui commencent par des petits boulots comme ça l'été. Et après, c'est un métier passionnant, c'est un métier où on peut s'épanouir, et c'est ce qu'on va s'appliquer à dire aujourd'hui dans cette émission.
Très bien. Et en plus, c'est un métier qui aura toujours lieu, finalement.
Ah, c'est un métier qui est non délocalisable. Hein. Si les grands étudiants et ingénieurs de mon temps ont pu voir la concurrence des Indiens, des choses comme ça, venir titiller leur métier, le nôtre, et il faut que ce soit du présentiel, il faut que ce soit physique, il faut que ce soit... Il y a de la manutention, il y a du savoir au niveau de la sélection des produits, une connaissance approfondie de la vente, puisqu'on va devoir conseiller nos clients. Donc, effectivement, ça va être difficilement délocalisable.
Donc, la journée type d'un primeur ?
Alors, la journée type d'un primeur, tout d'abord, dans le métier de primeur, il faut planter le décor. On a plusieurs métiers qu'on nomme primeur. Tout d'abord, il y a le stade de gros. Et en étant à Grenoble, on connaît tous le 117 rue des Alliés, le fameux marché d'intérêt national qui va fêter cette année ses 60 ans. Et donc, on peut travailler donc au marché de gros. On est primeur, mais on est primeur grossiste, c'est-à-dire que on va vendre les produits non détaillés, c'est-à-dire on va vendre au colis complet ou à la palette pour les plus gros clients. Et on va s'adresser uniquement et seulement aux professionnels. Professionnels qui peuvent être les professionnels de la restauration, donc les gens qui ont un restaurant, qui ont une petite boulangerie, qui ont besoin de pommes, de tomates, donc c'est des professionnels, ou alors de professionnels détaillants, comme je le suis, c'est-à-dire des gens qui achètent le produit en entier et qui le revendent en l'état, mais au détail. C'est-à-dire qu'au lieu, ils vont acheter une dizaine de colis, on va dire, de raisins, et ils vont vendre tout simplement au kilo. Ils vont, comme le nom l'indique, détailler, ils sont donc détaillants. Donc au stade de détail, vous avez plusieurs aussi possibilités, ou comme moi en magasin. Donc on a un magasin physique à Cessiné depuis 50 ans et on reçoit nos clients du mardi au dimanche midi. Ou alors vous êtes comme dans l'agglomération grenobloise, on a beaucoup de marchés qu'on appelle des marchés de plein vent, que ce soit l'Estacade, que ce soit l'Abbaye, qu'est-ce qu'il y a, la Butte. C'est tous des marchés où là le commerçant est ambulant et il va venir installer son stand tôt le matin et présenter ses produits et les vendre à ses clients jusqu'à midi, 1h de l'après-midi.
Et par exemple, donc, comment tu fais pour choisir un bon produit ?
Alors, pour le stade de détail, la journée type normalement d'un détaillant digne de ce nom, ça va être la sélection. Effectivement, ça veut dire la sélection des produits. Ce qui va nous caractériser, c'est que le matin, on va se lever tôt, on va aller au marché de gros et on va aller arpenter les allées du marché où il y a des grossistes. c'est-à-dire des gens qui font venir de la marchandise de différentes régions de France ou du monde, et on a aussi des producteurs qui viennent vendre en gros leur production de l'Y grenoblois. Il y a des producteurs à Gières, il y a des producteurs à Noyaré, il y a des producteurs de Savoie qui viennent au marché de gros, et ils vont venir vendre leur production en gros. Et la grande partie de notre métier, c'est effectivement la sélection du produit. C'est-à-dire qu'on va avoir notre liste d'achats de produits dont on a besoin pour notre magasin, et on va aller choisir au meilleur rapport qualité-prix un produit. Typiquement, en ce moment, on est en pleine raison, en pleine production de prunes. On a, c'est la saison du raisin, et on va aller goûter, agréer la marchandise. Le terme exact, c'est ça, c'est agréer la marchandise, c'est-à-dire regarder que la marchandise nous convienne au niveau de la qualité pour le prix qu'on nous en demande, savoir si ce produit-là va correspondre à la demande de nos clients. Et pour cela, il y a une certaine, un certain savoir-faire de connaissances, d'échanges, parce qu'il y a aussi l'aspect négociation, et c'est ça qui rend le sel à cette activité, c'est-à-dire qu'on va tourner le marché, voir chez l'un, voir chez l'autre, goûter, voir ce qui est le plus qualitatif. Moi, ce que je vais rechercher en priorité, c'est la plus haute des qualités. Et après, en fonction de la qualité, voir le prix qu'on m'en demande. Est-ce qu'il est justifié? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce qu'on ne peut pas aller discuter, négocier? Parce que la négociation fait vraiment partie du truc, et c'est vraiment là où on se fait plaisir. Un jour, vous avez la chance d'arpenter Rungis, le marché de gros de Grenoble. Vous allez voir des envolées entre l'acheteur, le vendeur. Il n'y a pas besoin d'aller au cinéma, hein. Vous allez voir des comédies d'un côté comme de l'autre, et pour essayer de tomber d'accord toujours sur le produit, sur le bon prix du produit. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez terminé votre sélection de produits, ça démarre, on va dire, entre 3h, 4h du matin. Pour celui qui est le plus débrouillard, à 6h, 6h30, 7h, il a terminé ses achats. Il va rentrer sur son lieu de vente, alors ou en magasin ou sur le marché, et il va installer sa marchandise et vendre ses produits. Ça, l'aspect de sélection, c'est très important. Très peu de marchandises chez moi, et même chez d'autres primeurs de l'agglomération grenobloise, sont achetés tout simplement en commande, par téléphone. Ça n'existe pas. Le bon primeur, même si le producteur, je le connais depuis des années, qui me dit que ces tomates, elles sont super bien, tant que je ne les ai pas vues, que je ne les ai pas contrôlées sur la fermeté, sur la texture, sur la couleur, c'est de l'achat de gré à gré, donc on va vérifier à chaque fois cette marchandise, parce que c'est tellement aléatoire dans nos métiers. Je vais vous donner l'exemple du radis. Le radis, c'est un produit qui, en l'espace d'une demi-journée, une journée, va être complètement différent, parce qu'il a souffert d'un peu de sécheresse d'eau, il va être un peu stressé, et d'un radis qui était très bon en début de journée, parce qu'il a eu chaud durant toute la journée, à 18h, 19h, il sera piquant et fort. Alors, il sera peut-être aussi joli que le matin, mais quand on va le goûter, et c'est là notre métier, c'est de réduire la part de hasard au minimum pour nos clients, pour ne pas qu'ils soient déçus, il faut aller toujours, on remet toujours sur son étal, et on vérifie, on va goûter, on regarde. Un melon, c'est pareil. S'il prend 2 jours de pluie, on a acheté le mardi un lot de melon qui était très bien, on va retourner chez le même producteur le jeudi ou le vendredi, mais s'il a pris 2 jours de pluie, je suis désolé, c'est pas de sa faute, hein, mais le melon ne correspondra plus en qualité à ce que souhaitent nos clients.
D'accord. Et justement, sur ce marché de gros, par exemple, les produits, ils arrivent... quel est le plus loin? Parce qu'on parle beaucoup de local, mais des fois, il y a des choses peut-être qu'à 50 km ou 100 km, on ne les trouve pas, du coup.
Effectivement, vous avez des marchandises, par nature, ne sont pas disponibles à côté de chez nous. Des bananes, alors qu'on en consomme énormément, elles sont françaises, mais ne sont pas locales. On va parler de l'ananas, mais dans notre région, on est assez bien lotis. Il y a d'autres régions qui sont mieux loties, mais d'autres pires, parce que on est une région de montagne, donc on a une plage de production qui est assez longue, entre le printemps, l'été et l'automne, mais Non, on a de la marchandise. On est assez bien loti. Il faut dire ce qui est, ça va. Il y a des régions qui sont beaucoup moins que ça parce qu'elles sont un peu plus au nord, qu'elles ont des terrains peut-être un peu moins favorables que ce qu'on peut avoir dans les grecs grenoblois.
Et du coup, si j'ai compris, il faut aimer se lever tôt. Est-ce qu'il y a d'autres qualités pour être primeur ?
Alors, c'est une des qualités. Après, les jeunes qui veulent venir dans ce métier, c'est la qualité principale, c'est d'avoir de l'abnégation, c'est-à-dire de s'intéresser à ce que l'on fait et de s'accrocher, parce que c'est un métier qui est formidable au niveau de l'ascension, puisqu'on peut commencer simple manutentionnaire, et parce qu'on est quelqu'un de sérieux au niveau ne serait-ce que de venir à l'heure le matin et d'être sûr que chaque jour on soit présent sur son lieu de travail, déjà ça commence à devenir quelqu'un d'intéressant. Pour un peu qu'il s'intéresse correctement à ce qu'il fait, vous êtes simple manutentionnaire. Plus tard, je vais parler au stade de détail, vous allez pouvoir ensuite gérer un magasin. Quand vous avez une expérience, que vous avez acquis les fondamentaux du métier, que ce soit la mise en rayon, c'est aussi un point important. La mise en rayon, c'est la capacité de la personne à mettre les produits qu'il a achetés ou qui ont été achetés le matin au marché de gros dans un magasin et de manière logique et attrayante. Et bien déjà ça, c'est un savoir-faire. Alors au début, on est manutentionnaire, on file un petit coup de main le matin pour faire l'étal, et puis on y aime et on y prend goût, et ben on finit par prendre la place ou du moins monter en compétence pour faire le magasin. Ensuite, la vente, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé aux produits, on sait la variété des prunes, on connaît la provenance des raisins, on sait quelle pomme de terre pour quel usage, on va pouvoir conseiller, donc on va pouvoir vendre. Et crescendo, quand on connaît très très bien la marchandise, on peut devenir acheteur. Vous êtes jeune et encore sérieux parce que vous êtes fiable le matin, on est sûr de pouvoir compter sur vous, vous passez le permis poids lourd, parce que nous, dans nos métiers, la marchandise est assez lourde, donc ça nécessite parfois d'avoir le permis poids lourd. Ça veut dire que vous allez être en capacité on va vous confier un camion, partir à un endroit, chercher de la marchandise, la charger. Il y a mille et une possibilité. Vous adorez réaliser un joli magasin, on appelle ça la théâtralisation. C'est-à-dire, là, pas typiquement, c'est la saison du raisin, vous avez fait une jolie présentation, vous êtes débrouillé à trouver quelques sarments de vigne, quelques pieds de vigne, un petit pressoir, vous avez fait une jolie présentation raisin, mais vous voulez un peu plus loin, la réalisation de corbeilles de fruits. Un client vient vous voir, je suis invité ce soir, on est 12 personnes, j'aimerais bien une petite corbeille de fruits. Donc c'est la capacité de mettre dans une corbeille des fruits joliment disposés, dans une corbeille transportable, c'est-à-dire qu'au bout du deuxième virage, ça ne se met pas tout dans le coffre de la voiture. Vous avez pu améliorer votre technique en prenant, en commençant à faire de la découpe. La sculpture sur fruits, c'est aussi possible. Et alors que c'est bien loin, par exemple, de celui qui va s'éclater à acheter et à négocier et à s'intéresser aux produits sur le marché de gros à 4h du matin. Pourtant, c'est le même métier de primeur. Et c'est un exemple, mais ça peut être la fraîche découpe. Alors la fraîche découpe, c'est quoi ? C'est que vous êtes dans votre magasin, vous vendez des produits entiers, mais vous voyez que vos clients, ils apportent un intérêt dans des haricots éboutés, c'est-à-dire entièrement découpés. Ils vont avoir de l'intérêt sur de l'ananas plutôt que l'acheter entier. Eh ben, vous allez prendre soin de le préparer en barquette et de le mettre en barquette. Ça peut être des carottes râpées, ça s'appelle la fraîche découpe. Mais pour ça, il faut avoir des compétences au niveau de la sécurité alimentaire, puisqu'à partir du moment où vous commencez à couper, vous avez une réglementation qui doit être connue. Ça s'apprend, hein, c'est pas non plus... vous n'allez pas passer le MOF cuisinier, hein, mais parce que vous coupez des produits, vous avez une réglementation. il y a des gens qui s'éclatent là-dedans. Typiquement, une dame vient vous voir, elle fait un apéro, elle souhaite faire des crudités, lui préparer un plateau de crudités joliment présenté, tout nettoyé, tout épluché, mis en bâtonnet, prêt pour manger avec une petite sauce.
Donc voilà, donc ça montre bien toute la palette qu'il y a derrière ce fameux vendeur de fruits et légumes qu'on pourrait simplifier.
Je me plais à dire qu'il y a autant de métiers de primeur qu'il y a de primeurs, parce que nous, à Grenoble, le marché de gros, par exemple, commence le matin très tôt. Et moi, j'ai toujours connu le marché de gros commençant à 3h, 4h du matin. Il y a d'autres régions, plus au sud, qui commencent le marché à 16h. Donc ça fait qu'ils ne se lèvent pas aussitôt. Nous, quand on leur raconte à l'heure où on se lève, on dit « Mais qu'est-ce que vous faites à 3h du matin ?» Eux, ils y vont à 16h. Pourquoi ? Parce que c'est des marchés, souvent, où il y a une grosse production. Et l'idée, c'est la suivante. Le producteur de pêche, de melon, il va faire sa récolte le matin. Il va l'amener au marché à 16h. Quand il a fini sa récolte, il va vendre ses melons et il rentre chez lui. Et les acheteurs arrivent à ce moment-là. Mais nous, à Grenoble, c'est comme ça. Et puis dans la région, à Lyon, c'est pareil. À Saint-Étienne, c'est pareil. Mais tout au long de la filière, il est peu probable que vous ne trouviez pas quelque chose qui vous épanouit, qui vous plaise.
Et ça te tenait à cœur aussi d'évoquer les formations, parce que là, on est la rentrée.
Oui. Ah oui, les formations. Alors pourquoi ? Parce que moi, étant issu de l'apprentissage, quand j'ai été plus jeune, dirigé vers l'apprentissage, on avait l'impression qu'il y avait eu un décès dans la famille, que le savoir manuel, c'était un peu la honte. Nous, notre temps, c'était la PPS à Grenoble et... les trentenaires et quarantenaires vont s'y reconnaître, où on vous mettait dans la filière carrosserie, la filière plombier, la filière maçon. Aujourd'hui, ces gens-là, ils gagnent très bien leur vie. Hein. Je suis désolé. Hein. Mais aujourd'hui, essayer de trouver un plombier qui connaisse son métier, essayer de trouver des ingénieurs. Alors, ce n'est pas que le savoir intellectuel est supérieur au savoir manuel, parce que les deux sont aussi importants. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous dirigez vers le manuel une boulangerie, vous voulez être charpentier, vous voulez être... Trouvez d'abord le métier qui vous plaît, parce que quand vous allez y aller, vous n'aurez pas l'impression de travailler, parce que vous allez tellement apprécier le truc que vous allez engranger du savoir. Et c'est là qu'on est épanoui dans son métier. Et c'est là où on se fait plaisir. Et c'est là où on va le plus loin. Et enlevons-nous de l'idée vraiment que les métiers manuels sont moins bien que les métiers intellectuels. Parce que tous ceux qui sont intellectuels, ils ont forcément besoin à un moment donné d'un serrurier chez eux ou d'un menuisier. Et avec toute l'intelligence qu'ils ont, ce savoir manuel vaut autant. Et vraiment, vraiment, je vois trop de jeunes, nous, qui arrivent dans nos formations parce qu'on leur a dit tu feras un métier manuel, et on leur a tellement vendu le truc comme étant quelque chose de dévalorisant qu'il arrive déjà en se disant putain, ils m'ont mis sur un métier que déjà tout le monde pense que non, hein. Un bon boulanger, je suis désolé, un bon boulanger, quand il fait bien son travail, c'est quelqu'un qui, normalement, qui travaille bien, qui est reconnu pour sa qualité de ses clients, c'est très gratifiant. Quand vous êtes devant un ordinateur à remplir un tableau Excel et à faire des stats sur des trucs où il n'y a aucun aboutissement, le primeur, quand il a acheté le matin sa marchandise, qui s'est dit, tiens, j'ai trouvé le produit pour mes clients de bonne qualité, qu'il a servi ses clients durant la matinée, que le lendemain, le client revient et lui dit, écoute, tu m'as vendu du raisin hier, il était vraiment très bon, redonne-moi-en. Et bingo, c'est la boucle est bouclée, j'ai gagné ma vie correctement, j'ai fait plaisir à une personne qui a reconnu mon savoir, j'ai fait mon activité dans un climat super sympa, parce que le client est content. Alors je dis pas que quand il pleut ou quand il fait froid, vous êtes sur un marché, ma foi, mais c'est comme tout métier, hein, y a des hauts, mais c'est quand même, moi je trouve gratifiant, parce que la cliente, quand vous lui avez fait une corbeille de fruits pour son mariage et qu'elle revient avec la corbeille sous le bras et vous dites, écoutez, mais tous mes invités se sont régalés, c'était vraiment très bien, moi, je trouve ça... en plus, on a gagné sa vie, on s'est fait plaisir, on a rencontré des gens pour acheter ses produits. C'est hyper gratifiant. Et je pense pas que... y a des métiers intellectuels qui sont... qui arrivent à avoir un tel niveau d'aboutissement.
Oui, donc en gros, ne pas hésiter à aller dans les filières d'apprentissage si c'est quelque chose qui peut plaire pour donner
ça,
de la valeur.
Ouais. Et ça, par exemple, tous les jeunes qui sont en troisième, nous on le fait des fois au magasin, quand vous arrivez en fin d'année, que vous êtes toujours à l'école, là cette année c'était jusqu'au 7 juillet, il y a beaucoup de collèges qui ont arrêté avant le 7 juillet par rapport au fait qu'il y avait pas mal de diplômes qui allaient se passer dans leurs écoles. Donc il y a des jeunes qui se retrouvent encore scolarisés mais qui n'allaient plus à l'école parce que les salles étaient prises ou que les profs étaient pris. Demandez à vos collèges s'il est possible d'aller faire des stages dans les entreprises. Parce que ça, ils peuvent vous faire une convention. Des fois, on a vu une émission à la télé, on a vu un restaurant, on a vu Philippe Etchebest, comme beaucoup, et dire « Tiens, c'est génial la cuisine ». Eh bien, profitez de ce moment, allez voir votre conseiller d'orientation et vous lui dites « À la fin de mon année scolaire, là, il va y avoir un laps de temps où on va être encore scolarisé et qu'on ne va pas à l'école. J'ai trouvé un fast-food, j'ai trouvé un truc, il veut bien me prendre pendant une semaine juste pour voir le métier. » Et c'est comme ça que ça commence. Parce que parfois, vous passez devant des commerces et vous vous dites « Qu'est-ce qu'il fait ?» Le kebab en bas de chez vous, eh ben, le matin, il faut qu'il aille acheter ses produits, il faut qu'il trouve sa viande, il faut qu'il trouve... Et c'est toute cette organisation qui demande, ben, ma foi, au bout d'un moment, un savoir-faire pour avoir un service au client d'aplomb. Alors, c'est peut-être pas ça que vous allez vouloir faire, mais au moins, vous aurez passé 8 jours et vous vous êtes dit « C'est super !» Et puis, en fin de compte, c'est pas si super que ça. Plutôt que passer son temps à rien faire... Allez voir, pour un peu qu'il vous laisse, le boulanger, il vous laisse faire un peu de pâte, un peu de cuisson, ou je ne sais pas, mais au moins vous avez une belle image du métier qui vous semble vous intéresser.
Et vous êtes meilleur ouvrier de France, oui. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, je suis un des meilleurs ouvriers de France. Alors, le titre de meilleur ouvrier de France existe dans de très nombreux métiers, alimentaires et non alimentaires. Ça peut être cuisinier, pour ceux qui connaissent Philippe Etchebest, qui est meilleur ouvrier de France, comme Paul Bocuse, ça peut être dans le bâtiment, électricien, ça peut être dans le numérique, ça peut être dans les chapeaux. Nous sommes à Grenoble, on a aussi un gantier, meilleur ouvrier de France. On a, pour ceux qui connaissent Centre-Ville, un meilleur ouvrier de France fromager. On a d'autres meilleurs ouvriers de France boucher. On va avoir des métiers, je ne dis pas un problème, mais qu'on ne connaît pas bien, mais une dame qui fait de la teinture sur étoffe. Vous avez des doreurs relieurs, meilleurs ouvriers de France. Alors, pour en revenir, ça c'était pour vous faire voir le panel non exhaustif d'un des meilleurs ouvriers de France. C'est un diplôme qui est typiquement français et qui vient sanctionner par ce titre l'excellence. Il n'existe pas de diplôme aussi haut en France pour ces métiers-là. Il est caractérisé par ce fameux col bleu-blanc-rouge que nous portons, et on a aussi une médaille. Il est donné par le ministère de l'Éducation et du Travail, et il est le résultat d'un concours de très très haut niveau qui a lieu tous les 2 ans, 3 ans, ça dépend, avec des qualifications et une finale. Quand je dis que c'est un concours qui est très haut, le niveau... C'est extrêmement difficile, mais c'est ce qui vaut aussi la qualité du titre. Alors, pour les primeurs, par exemple, vous avez des qualifications, n'importe qui peut s'inscrire, pourvu que vous soyez français, que vous ayez plus de 21 ans. Et là, vous avez des qualifications où on va vous demander, on va passer en revue toutes les connaissances que doit avoir un primeur et de surcroît un primeur meilleur ouvrier de France. Donc les connaissances, c'est de réaliser un étal par exemple de légumes pour moi, de 3 mètres par 1 mètre. Donc vous allez être jugé par vos pairs, c'est-à-dire que des très bons du métier ou des meilleurs ouvriers de France, et on va juger si vous êtes capable de proposer un choix qualitatif, surprendre peut-être son jury par des légumes que vous ne connaissez pas ou mal, la capacité de la présentation, la méthode du candidat au niveau de l'hygiène, de la sécurité et de l'organisation. Et là, ça dure une heure et demie. Vous allez devoir pancarter, c'est-à-dire mettre les prix, puisque les fruits et légumes sont régis par des obligations de pancartage sur l'origine, la catégorie, le prix, être en capacité d'être réglementairement bien affiché. Ensuite, cette première épreuve, vous allez pouvoir avoir une seconde épreuve de fruits, où là, on va vous mettre dans une pièce, on va vous mettre trois corbeilles, trois corbeilles donc que vous ne connaissez pas, mais quand je dis corbeille, on va plutôt parler de contenant. Vous allez vous retrouver avec une boîte à chapeau, vous allez vous retrouver avec un seau, vous allez vous retrouver avec une planche, et on va vous dire, eh bien, vous devez réaliser trois corbeilles de fruits. La boîte à chapeau, c'est pour une dame qui part à la retraite, qui était meilleure ouvrière de France chapelière. Vous devez faire une corbeille de fruits pour raccrocher à ce sujet. On va vous donner le seau en vous disant, un photographe veut illustrer votre métier, à vous de présenter dans ce seau ce qui représente le plus le métier de primeur. Et donc là, vous allez être jugé sur la qualité des produits que vous allez y mettre, votre méthode, votre originalité, le fait que ce soit transportable, parce que si on vous commande une corbeille de fruits, potentiellement le client va peut-être monter dans sa voiture et il ne faut pas que ça tombe par terre. Ensuite, vous allez avoir une centaine de questions extrêmement pointues sur l'amont et l'aval. L'amont, le champ. Qu'est-ce qui se passe dans les arbres? Qu'est-ce qui se passe dans la nature avant que la salade ou les fruits arrivent sur votre étal? Et ensuite, l'aval, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de donner comme recette, comme conseil à nos clients qui vont cuisiner chez eux. Ça, c'est assez chaud parce que c'est 100 questions sur une heure, donc ça fait plus d'une question par minute. Et ensuite, vous avez une soutenance de 3 produits d'entrée de gamme, 3 produits milieu de gamme, 3 produits haut de gamme. C'est pas parce qu'on est meilleur ouvrier de France qu'on n'a que des produits haut de gamme. Et c'est justement là l'intérêt d'avoir un meilleur ouvrier de France, parce que c'est comme si vous allez chez un caviste, s'il a que des Margaux et des Pétrus, forcément, ils vont être bons. Mais ce qui est intéressant chez un caviste, c'est d'avoir, certes, des Margaux et des Pétrus, mais d'avoir le petit producteur de Bordeaux qui fait son vin, mais qui a un rapport qualité-prix topissime. Et c'est ce qu'on a aussi chez nous. Et donc, c'est pour ça qu'ils nous font amener 3 produits d'entrée de gamme, 3 produits milieu de gamme, 3 produits haut de gamme. Et on doit expliquer quel est notre choix. On va tester aussi au candidat, savoir ses connaissances sur tel ou tel produit, sur une pomme de terre, sur son terroir, sur sa variété, sur son utilisation. À partir de ce moment-là, eh bien, ma foi, vous êtes retenu ou pas. Et si vous êtes retenu, vous allez partir là pour la finale, qui en fin de compte, comme tout meilleur ouvrier de France, c'est l'œuvre d'un meilleur ouvrier de France, que ce soit en zingerie, en ébénisterie. Et là, on a un thème. Moi, j'ai échoué sur les 4 éléments. Donc, on devait réaliser un buffet donc, de fruits et légumes découpés sur les 4 éléments. J'ai mis très longtemps pour m'en remettre. Et c'est là aussi que je peux dire à tous nos auditeurs où j'ai le plus appris, c'est à l'échec. C'est quand j'ai échoué que j'ai le plus appris sur moi, sur ce que j'ai mal fait. J'en voulais à la terre entière, ça c'est sûr. Mais par contre, j'ai beaucoup appris de mon échec. J'ai repris mes idées, je suis retourné faire un deuxième concours. Et là, j'ai été titré sur le thème 2050, l'Odyssée des fruits et légumes. Alors, le thème, c'est quelque chose qui est là pour élever le candidat. C'est-à-dire que si vous êtes un bon professionnel, comme certains le sont, vous devez montrer vos capacités à vous extraire un petit peu de votre métier, de prendre un peu de recul et de faire des choses que d'habitude vous ne faites pas, et notamment moi de la recherche. J'ai dû rechercher sur ce que c'était 2050, ce que serait le métier de primeur en 2050. Quels sont les problèmes qu'on risque de rencontrer, quelles sont les envies du consommateur, quels produits vont être consommés plus tard que maintenant. Et j'en suis venu à parler de la santé, parce que moi, j'ai tout axé mon étal, mon œuvre sur la santé, parce qu'en 2050, aujourd'hui, vous allez courir, votre téléphone portable, il vous dit le nombre de calories que vous avez fait, le nombre de pas, il vous a dit le nombre de kilomètres que vous avez fait, et d'ici peu, vous allez pouvoir avoir sur votre téléphone des mesures qui, sans être intrusive comme peut être une piqûre, mais on va pouvoir savoir quel est votre taux de cholestérol, quelle est votre pression sanguine, quelle va être vos éventuelles carences. Et là, d'un coup, le métier de primeur va rentrer dans un autre monde. Et parce que une fois que vous aurez toutes ces données-là, vous aurez deux choix, ou de vous soigner parce que vous êtes vraiment malade, ou alors vous allez devoir améliorer votre alimentation. Et là, les fruits et légumes, vous allez vous rendre compte du bienfait que ça fait sur la santé. Et vous allez améliorer toutes ces choses. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on va se retrouver, nous, maintenant, aujourd'hui, à vendre des produits qu'on ne vendait pas il y a 5 ans, comme la grenade, la baie de goji, le curcuma frais. Et vous avez des clients, avec les développements des technologies et d'Internet, qui sont hyper calés sur les bienfaits réels, encore une fois réels et pas supposés, de ces produits qui, au premier abord, ben c'est pas le truc qui nous vient à l'esprit quand vous voulez manger un fruit, de la grenade, parce que c'est astringent, parce que c'est dur à nettoyer, mais par contre, qui a des bienfaits au niveau santé qui sont indéniables. Et donc, le primeur va se transformer gentiment en presque pharmacien.
Merci beaucoup, Maxime, pour avoir partagé ta passion du métier de primeur.
Oui.
Ton magasin, donc, à Cessinet, le
oui.
nom ?
Oui, Léal Charlie.
Voilà. Et ben, on peut vous retrouver au Hall Charlie. Et merci à vous, si vous avez une petite chose à rajouter.
Ben oui, venez dans le métier de primeur, parce que vous verrez, vous ne vous ennuierez pas, pour un peu que vous soyez sérieux et que vous soyez, oui, sérieux et vous allez vous tenir au travail. Vous avez forcément quelque chose pour vous à faire dans le primeur.
Bah merci, on espère qu'on a éveillé des vocations.
Suscité des vocations, tout à fait.
Merci, bonne journée.
Bonne journée à tous.
Au revoir. Merci d'avoir écouté l'émission C'est quoi ton métier ? Vous pouvez la retrouver en podcast sur Internet sur le site radio-newsfm.com. Merci et à bientôt. Au revoir.